Kenzie, près d'un tiers sont impliqués dans l'industrie manufacturière, un quart dans les services et environ un cinquième chacun dans le commerce ainsi que la construction et l'immobilier. Dans les infrastructures, la domination des entreprises chinoises est encore plus prononcée et elles revendiquent près de 50% du marché de la construction sous contrat international en Afrique.
Merci beaucoup, Salwa. À présent, nos invités à Dakar, Ibrahim Khalil Nian, chercheur postdoctoral à l'Université du Cap en Afrique du Sud, et vos recherches portent essentiellement sur les relations Chine-Afrique. À Paris, nous avons Thierry Perrault, directeur de recherche au CNRS, également spécialiste des relations Chine-Afrique, et ici à Washington, Jean-Claude Zamba, analyste politique. Merci à tous. Alors, Ibrahima, dans la déclaration finale du Forum de Dakar, les 53 pays africains représentés appellent à des relations moins déséquilibrées avec la Chine, mais c'est un peu le même reproche qui est fait aussi aux Occidentaux. Alors, pourquoi cette montée en puissance de la Chine sur le continent ?
Merci beaucoup. Merci de cette invitation. Il est clair qu'en fait, depuis le début des années 2000, nous avons constaté en fait une montée en puissance de la doctrine populaire de Chine sur le continent africain par le biais en fait d'une stratégie qui a été bien pensée, une stratégie qui est aujourd'hui structurée à partir du forum de coopération sino-africaine. Et au-delà de ça aussi, il y a la mobilisation des institutions financières qui sont derrière, c'est-à-dire Exim Bank of China, vous avez aussi le China Development Bank, sans oublier le Bank of China. Donc cette stratégie-là a amené en fait la Chine à pouvoir exercer une grande influence sur le continent africain, fait qu'aujourd'hui, en fait, en termes de volume d'investissement, nous avons noté qu'il y a eu en fait un volume de stock d'investissement chinois qui est très important, qui tourne autour de 44,4 milliards de dollars, mais qui est aussi inférieur au volume d'investissement de l'Europe et des États-Unis d'Amérique sur le continent africain. Mais c'est le volume aussi des échanges commerciaux qui est important, qui fait que depuis 2009, la Chine est le partenaire, principal partenaire commercial du continent africain, avec 200 milliards de dollars en volume d'échanges.
D'accord. Alors, Thierry Perrault, la Chine est, comme on l'a dit, le premier partenaire commercial de l'Afrique, mais du côté chinois, les échanges avec l'Afrique ne représentent que 3% dans ces échanges globaux. Alors, quel est l'enjeu économique pour la Chine? Parce qu'on serait tenté de dire que c'est plutôt l'Afrique qui a besoin de la Chine.
Je suis tout à fait d'accord pour dire que c'est l'Afrique qui a plutôt besoin de la Chine que la Chine qui a besoin de l'Afrique du point de vue économique. Mais je pense que l'intérêt de la Chine n'est pas d'abord économique. L'intérêt des entreprises chinoises peut être certain pour l'Afrique, mais l'intérêt du pays, de la Chine pour l'Afrique, il est d'abord et avant tout politique. Et c'est une histoire qui remonte en fait au lendemain des événements sanglants de Tiananmen, lorsque la Chine a subi les sanctions des pays occidentaux et qu'elle a décidé de remettre en place une stratégie. Et cette stratégie, elle l'a axée essentiellement sur les pays africains, parce que parmi les pays qui ont réagi de façon peu défavorable à Pékin après les événements de Tiananmen, l'Afrique s'est montrée particulièrement conciliante avec...
Sauf qu'on a cette idée aussi que la Chine a besoin de s'approvisionner des matières premières en Afrique.
Alors, elle a besoin de s'approvisionner en matières premières, mais pas de l'Afrique en particulier. Elle s'est constituée une palette de fournisseurs au cours de ces 20 dernières années et elle peut jouer avec ses fournisseurs en fonction de ses propres besoins ou en fonction des relations qu'elle peut entretenir avec ces pays et quitter un fournisseur très rapidement. On l'a vu récemment à propos de l'Australie. Alors, le résultat aujourd'hui, c'est que vous avez des pays africains qui sont fournisseurs en matière première à la Chine, mais qui ne sont jamais des fournisseurs dont dépend effectivement la Chine, mais eux, ce qu'ils vendent à la Chine, pèsent très lourdement dans leurs exportations, et de ce fait, ils sont dépendants de la demande chinoise.
D'accord. Alors, Jean-Claude Zomba, il y a cette idée d'une Chine très généreuse en Afrique, puisqu'elle finance beaucoup de projets d'infrastructures dont le continent a besoin pour se développer. Ces prêts, quand même, font l'objet de débats, mais cela n'empêche pas les pays africains de se tourner vers la Chine. Pourquoi ?
Parce que déjà la Chine offre des modalités qui sont plus faciles à accepter par ces pays. Beaucoup de pays occidentaux, quand ils font des prêts, ça vient avec certaines conditions. La Chine, généralement, est très connue pour avoir des prêts à des taux d'intérêt assez bas. Également, je pense que le problème de la dette de la Chine par rapport aux pays africains, je pense que c'est au niveau de la négociation. Et puis également, c'est au niveau de la bonne gouvernance du côté africain. Nous avons le cas, par exemple, du port de Tanzanie ou alors le cas du port du Vietnam qui a été récupéré par la Chine à cause de non-paiement. Et là encore, comme je dis, c'est par rapport à la bonne gouvernance de ces pays de s'assurer que dans ces contrats, les négociations soient faites de façon assez consciente et également s'assurer que le repaiement de ces dettes se fasse selon les conditions de bonne gouvernance.
Alors justement, pour rester un peu sur cette question de la dette, Ibrahim Khalil Niang, c'est quand même très, très controversé.
Oui, en fait, il y a toute une littérature et beaucoup de débats concernant en fait cette dette, que certains considèrent comme étant une sorte de piège de la dette parce qu'il y a une phase de restructuration des dettes africaines. Mais aujourd'hui, en fait, je pense que quelque part, il faudrait relativisé par rapport en fait à cette dette là, comme l'a dit en fait l'économiste éthiopien, parce que cette dette, à mon avis, concerne, si on regarde bien, peut-être une quinzaine de pays africains. Donc ça concerne pas tous les pays du continent. Ça, je pense que c'est à prendre en compte. Maintenant, quel est le niveau de cette dette là à la dette globale? C'est 20%.
Mais est-ce que cela veut dire, Khalil, que les Africains ont du mal à définir clairement les contours de leur relation avec la Chine? Si on prend par exemple le cas du Sénégal, il y a toute une polémique sur la présence des Chinois dans l'agriculture, notamment l'achat des arachides.
Oui, je pense que c'est là en fait où on doit venir, par exemple, sur la question de la dette. Parce que les pays africains ont un déficit criant d'infrastructures. Donc, ça veut dire qu'ils ont besoin de s'endetter pour pouvoir véritablement rattraper le retard sur ces questions-là. Sur les infrastructures, que ce soit routières, ferroviaires, voire aériennes. Maintenant, concernant, comme vous l'avez souligné, sur le cas des exportations des graines d'arachide qui quittent le Sénégal pour aller vers la Chine, alors qu'il y a une entreprise ou des entreprises sénégalaises qui peuvent traiter en fait cette graine-là et produire de l'huile raffinée, et cette huile-là pourrait être exportée et gagner beaucoup plus en volume d'achat et aussi en plus-value, ce qui n'est pas le cas. Maintenant, à ce niveau, moi je pense que quelque part aussi, on peut indexer un peu les Chinois par rapport à le gourmandise un peu sur certaines ressources, mais nous avons une part de responsabilité parce que rien ne nous empêche, à notre niveau, je pense bien, de limiter les exportations d'arachides vers la Chine et de considérer qu'il y a un volume...
Satisfaire la demande locale.
Oui, aujourd'hui, par exemple, il est difficile de trouver de l'huile d'arachide à Dakar. Vous avez seulement l'huile de soja. C'est seulement ça que vous allez trouver sur le marché, alors qu'on considère que c'est le Sénégal qui produit en moyenne 1 500 000 tonnes de graines d'arachide.
On va aller malheureusement un peu plus vite. Thierry Perrault, l'Afrique, comment l'Afrique peut tirer son épingle du jeu dans ce partenariat économique, surtout quand on nous dit que la Chine a pris ou est sur le point de prendre le contrôle de certains ports ou aéroports, car ces pays n'arrivent pas à payer leurs dettes?
Il faut tout de suite dire une chose, mais vraiment immédiatement, c'est que la Chine n'a pris absolument pas acquis, absolument pas saisi aucun actif lorsqu'il y a eu des non-paiements ou des retards de paiement ou des discussions de paiement. C'est vraiment un fait qui est avéré, qui a été démontré. Il y a eu des études spécifiques pour montrer qu'il n'y a pas eu de saisie d'actifs.
En tout cas, pour l'aéroport d'Entebbe en Ouganda, les autorités ont démenti. C'est vrai qu'il y a des problèmes de paiement, mais les autorités ont démenti.
Tout ce qui a été dit. Alors, c'est sur la base, dirons-nous, d'une analyse erroné des contrats qui prévoient des procédures. Et dans ces procédures n'amènent pas systématiquement et immédiatement à des saisies. Bon, et il y en a, quand on parle du port d'Ambantata, très souvent au Sri Lanka, on a parlé du port de Mombasa, à chaque fois, hein, on a pu montrer très clairement qu'il n'y avait pas de possibilité de saisie et qu'il n'y avait pas eu saisie. Alors c'est une histoire qui tourne, hein, qui est racontée systématiquement. Donc on voit très bien quel est l'intérêt politique qu'il peut y avoir derrière. Alors l'intérêt politique, il peut être simplement de pouvoir forcer le marchandage pour la restructuration de la dette, parce que le gros problème qui se pose ici, c'est pas en fait la dette. Je ne sais plus lequel des deux autres intervenants ont signé sur le fait que l'Afrique avait besoin de financement et qu'elle avait besoin énorme de financement, et donc de ce fait automatiquement il y aura un recours à la dette. Mais le problème, ce n'est pas la dette, c'est le service de la dette. Or le service de la dette, ça veut dire que est-ce que l'on a bien fait les études de faisabilité, les études de rentabilité, est-ce que l'on a bien emprunté à des termes qui sont adaptés à l'objet? Lorsque vous avez une ligne de chemin de fer qui est rentable sur 50 ans, lorsque l'on vous prête sur 10 ans, c'est totalement aberrant. Parce qu'on vous force à rembourser quelque chose qui sera nécessaire de que vous allez supporter, vous allez supporter le coût pendant 50 voire 70 ans. Donc le problème, ce n'est pas la dette. L'Afrique n'est pas assez endettée. Le problème, c'est la façon dont elle est endettée. Et quand j'emploie le mot façon, c'est que je pose tout le problème des relations de la Chine avec les pays africains. Ce n'est pas ce que fait la Chine qui pose problème, c'est la façon dont elle le fait. C'est-à-dire qu'il y a des problèmes d'opacité, hein, il y a des problèmes de méconnaissance totale de l'environnement. Il y a un raisonnement des problèmes africains comme si c'était des problèmes chinois, avec des solutions qui peuvent éventuellement marcher en Chine, mais qui ne peuvent pas marcher dans des économies de marché.
D'accord.
Donc j'avais tout cet ensemble-là. Ce n'est pas le fait que la Chine soit là, ce n'est pas le fait que la Chine prête de l'argent, ce n'est pas le fait que la Chine fasse des constructions d'infrastructures, c'est la façon dont tout ça s'est mené, hein, qui montre une méconnaissance de l'environnement.
Jean-Claude, justement, les institutions financières internationales comme la Banque mondiale ou les FMI ou même les occidentaux de façon générale doivent-elles revoir ou tenir compte de la donne chinoise et modifier leur coopération avec les pays africains en assouplissant un peu les conditionnalités?
Je pense que oui. Aujourd'hui, le partenaire privilégié en termes de finances de l'Afrique, de certains pays africains, c'est la Chine. Pourquoi? Parce que la Chine a compris le besoin immédiat de l'Afrique et également a compris également les difficultés que l'Afrique avait parfois avec des institutions de Bretton Woods et ont décidé, ces pays africains, d'avoir un meilleur partenaire en voyant la Chine. Il faut dire que la Chine, quelque part, la Chine de Mao Zedong, a quand même déjà 100 ans par rapport à son parti communiste. Quand la Chine met en place l'Exim Bank de la Chine ou met en place des banques pour accompagner non seulement leurs entreprises, mais également accompagner ces pays africains qui ont un besoin, il faut dire que c'est parce qu'ils répondent à une demande qu'ils ont vue. Ils ont pris le temps d'étudier et de regarder. La Chine, comme a dit certains intervenants, se positionne sur le plan politique, sur le plan économique, sur le plan militaire. Récemment, on a vu le hypersonique qui a été lancé par la Chine, 6500 km par heure, et qui a quelque part mis une certaine frayeur au niveau des pays occidentaux. La Chine veut montrer qu'aujourd'hui, elle est un partenaire privilégié et qui peut faire avancer l'Afrique au niveau de tous les éléments dont l'Afrique a besoin.
D'accord.
Donc, je pense que l'Europe et l'Amérique qui aujourd'hui se refocalisent sur l'Indo-Pacifique à cause de ce que représente la Chine, je pense que c'est pour encore nous montrer une fois que la Chine a sa place et que les pays africains doivent savoir tirer leur épingle du jeu.
D'accord. Alors, voici quelques commentaires de nos téléspectateurs sur la page Facebook de VOA Afrique. Archiduc Théodore Anyamena nous dit « La Chine est en train de gagner du terrain dans les relations entre elle et l'Afrique. Sa stratégie gagnant-gagnant a servi l'Afrique dans la construction d'infrastructures. » Alphonse Mbouaki à Kinshasa nous dit que la Chine doit réformer son partenariat en transférant sa technologie au continent, en privilégiant les compétences locales, l'utilisation de la main-d'œuvre locale en empêchant les privés chinois de s'impliquer dans le commerce de détail réservé aux nationaux. Et l'histoire a démontré que la dette n'a pas développé les pays bénéficiaires. Et puis Roméo Mingyedi, il est dans la province du Congo central, en RDC. Il écrit, il revient aux hommes politiques africains de faire preuve d'une gestion saine et responsable. Voilà, merci de rester fidèle à VO Afrique. Washington Forum revient après une courte pause. Washington Forum, le rendez-vous hebdomadaire de VOA Afrique à ne pas manquer. Chaque semaine, nous sommes ensemble pour 30 minutes pour décortiquer les grands sujets qui font l'actualité. Avec nos analystes et nos reporters, nous allons au fond des choses. Politique, économie, société, culture, nous posons le débat et nos analystes sont là pour apporter l'éclairage. C'est aussi vous, le public. Vous pouvez participer en réagissant au thème de la semaine sur nos réseaux sociaux. La rédaction de VOA Afrique vous donne rendez-vous sur ses chaînes partenaires, son site voafrique.com et sur ses plateformes numériques pour prendre part à ce forum réalisé dans nos studios à Washington. À très bientôt dans Washington Forum. Washington Forum. Le 8e forum sur la coopération sino-africaine s'est tenu lundi et mardi à Dakar avec la présence d'investisseurs chinois et africains. Au Sénégal, la présence chinoise est remarquée dans plusieurs domaines allant du petit commerce aux infrastructures comme les routes en passant par le bâtiment ou encore l'agriculture. Voici ce que quelques Sénégalais rencontrés à Dakar pensent de la coopération chinoise.
On a vu que c'est la coopération chinoise qui a construit le stade Amitié. Bon, le pôle urbain de Diamniadio, beaucoup de trucs sont en train d'être faits là-bas. Et je crois que aussi, avec cette coopération, la Chine peut aussi aider le Sénégal à élever son plateau médical.
Ce qu'on a porté sur le Sénégal, ça montre que le Sénégal, voilà quoi. Elle a une très bonne coopération avec la Chine. Et surtout, le Sénégal, c'est un pays stable, il y a la paix, il y a tout. Et ça, c'est une bonne soit quoi. Et j'espère bien que ce sera quelque chose qui va nous emporter beaucoup de choses, quoi, Inch'Allah.
La coopération Chine et Sénégal, c'est très important. Parce que toutes les infrastructures qui sont ici, c'est celui qui la font, là. Même le stade Amitié là, hein? Avec beaucoup de trucs. C'est la Chine qui ont construit ça. C'est pas les Blancs qui l'ont construit. Hein? C'est les Chinois. Les Chinois, ils viennent avec leur équipe. Et ils le font.
Maintenant, le Sénégal.
Ici au Sénégal, 90% de nos produits électroniques viennent de Chine. Car la Chine est notre principal fournisseur. Dans ma boutique, par exemple, la plupart des articles viennent de Chine. Mais à cause de la pandémie de Covid-19, nos stocks sont presque épuisés. Et en plus de cela, il nous est difficile de voyager car les frontières entre la Chine et le Sénégal sont toujours fermées.
Voilà, et je rappelle nos invités pour ce Washington Forum à Dakar, Ibrahim Khalil Nyon, chercheur postdoctoral à l'Université du Cap et qui fait ses recherches sur les relations Chine-Afrique. À Paris, Thierry Perrault, directeur de recherche au CNRS, entre autres, et spécialiste des relations Chine-Afrique. Et ici à Washington, Jean-Claude Zamba, analyste politique. Alors, Thierry Perrault, la rencontre de Dakar est essentiellement économique, mais la diplomatie était aussi au rendez-vous. Hein. Pour la Chine, avoir avec elle le bloc africain, presque dans son ensemble, sur des dossiers stratégiques comme Taïwan, la question des droits humains, qu'est-ce que cela signifie ?
Disons que c'est un fruit et non pas l'objectif premier recherché. L'objectif premier qui a été recherché en cultivant des relations avec le pays africain, c'était effectivement de se créer une clientèle politique qui pouvait soutenir la Chine à l'Assemblée générale des Nations unies, et cela a pour résultat effectivement d'exclure au fur et à mesure Taïwan d'un certain nombre d'instances. Ça permet éventuellement de ne pas voter de résolution qui pourrait condamner la Chine à propos de ce qui se passe dans la province du Xinjiang. Mais en fait, ce qui se passe là où c'est l'élément le plus important, c'est le fait que la Chine a pu, grâce à ce soutien, se faire nommer à la direction d'un certain nombre d'agences onusiennes. Aujourd'hui, il y en a quatre. Il y a la FAO, vous avez l'ONUDI, vous avez l'Agence des télécommunications et vous avez l'Agence civile de l'aviation. Donc, aucun pays jusqu'à présent n'avait réussi à réunir au même moment les quatre directions de ces agences onusiennes. Et je vous rappelle qu'auparavant, l'agence onusienne, l'OMS, avait été aussi dirigée par un directeur chinois qui a passé la main à un directeur éthiopien qui, et un autre directeur éthiopien devrait arriver à la tête de l'ONUDI. Donc vous voyez que c'est en fait une forme de lobbying, une création de réseau, et c'est effectivement là l'élément le plus important.
Alors, Khalil, on a quelques minutes pour terminer. Khalil, comment comprenez-vous la position des États africains sur Taïwan et la question de la minorité ouïghour, considérée comme des sujets de politique intérieure chinoise? Est-ce que c'est parce qu'ils aiment bien la posture de Pékin qui ne veut pas s'immiscer dans les affaires intérieures africaines?
Je pense que c'est des points qui ont été liés lors, en fait, de la signature des accords de relation, parce que les principes, les cinq principes, comme le principe de non-ingérence dans les affaires intérieures des pays, ça, en fait, pousse les États africains à ne pas véritablement, en fait, donner leur avis sur ces questions-là. Déjà que la Chine a réussi à isoler Taïwan diplomatiquement par ce qu'on appelle la diplomatie d'échiquier avec tous ces pays qui se retrouvent aujourd'hui avec la République populaire de Chine d'un côté. Maintenant, de l'autre côté, concernant par exemple la question du Tibet ou les Ouïghours, sur ces questions-là, vous n'entendrez aucun pays africain, à moins que ce soit les sociétés civiles africaines, qui émettent des avis contraires concernant ces questions-là, parce que pour ces pays-là, il y a des principes qui ont été signés avec la République populaire de Chine, et parmi ces principes-là, il y a le fait de ne pas s'ingérer sur les affaires intérieures des uns et des autres.
D'accord. Et justement, Jean-Claude, dans cette logique, que va devenir l'exigence de transparence dans, par exemple, la gestion des ressources naturelles, surtout avec le bois et le pétrole dont la Chine a énormément besoin?
Je pense que les pays africains se développent au fur et à mesure. Vous avez mentionné un peu les sociétés civiles, en fait, qui sont là. Aujourd'hui, nous avons publié ce que vous créez. La société civile fera sa part. Les pays africains également, par rapport à la bonne gouvernance, feront leur part. Ça prendra peut-être du temps pour certains pays. Mais moi, je pense que la Chine est l'un de ces pays qui a, pendant très longtemps, eu une vision à long terme de l'Afrique. N'oublions pas que, comme a dit certains, c'est la façon dont certains contrats, en fait, sont négociés. Si ces contrats sont négociés avec des pays qui prennent vraiment en compte l'avancement de leur pays et comprennent l'importance de la bonne gouvernance, les choses se feront de la sorte. Aujourd'hui, la Chine parle, et selon le dernier congrès, également, on a ramené ce concept de la prospérité commune qui avait été déjà mis en place à l'époque par Mao Zedong, mais qui avait été un peu mis de côté, avec 51 millions de millionnaires ou de billionnaires en Chine. Il est important qu'à un moment, on arrive à faire en sorte que tous les pays africains puissent profiter de ce partenariat avec l'Afrique. Une autre chose que je dirais serait important à mentionner ici, c'est, comme l'ont dit certains, le transfert de technologie. Je pense que c'est un débat qui est très important. Quand vous voyez comment certains pays, et même la Chine, quand des pays, leurs compagnies vont investir aux États-Unis, la Chine demande à ce qu'il y ait un transfert de technologie. Donc ça veut dire que c'est un concept qui est connu. C'est à nous maintenant de profiter également de ce genre d'opportunité.
Ouais, malheureusement, nous arrivons au terme de ce Washington Forum. Débat certainement à suivre. Merci à mes invités et à vous qui nous avez suivis à travers nos télépartenaires sur le continent, sur notre site voafrique.com et sur notre page Facebook. Un grand merci également à toute l'équipe technique. À très bientôt.